bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce cinquième épisode de Comprendre l'humain avec ou sans un doc en psycho. Je m'appelle Maryse Damcourt, étudiante au doctorat en psychologie, et je vous apprends que je suis aussi candidate à la certification en communication non violente. J'avoue que je me demande un peu pourquoi je prends quelques heures cet après-midi pour faire un balado en plein milieu de ma session chargée avec ce stage. Mais dans le fond, je pense que j'ai besoin de liberté, de créativité, de m'amuser, de faire des choses pour moi. Et aussi, ce balado-là, ça fait tellement sens de partager des connaissances qui m'aident beaucoup dans ma vie en général et aussi dans ma pratique clinique. Je pense sincèrement que la connaissance, c'est une des voies vers la création d'un monde meilleur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la CNV, la communication non violente. Donc, les trois lettres à retenir pour ce balado, ce sont CNV. C'est mon dada, ce qui m'a en fait amené vers la psychologie. J'ai commencé la CNV en 2014. Je cherchais alors des moyens de mieux communiquer avec une personne que j'aimais beaucoup. Puis dans le rayon de psychologie là, d'une petite librairie à Québec, je suis tombée sur le livre « Les mots sont des fenêtres ou des murs » de Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente. J'ai alors dévoré le livre, je me disais à chaque paragraphe « Ah oui, c'est ça! Faudrait qu'on enseigne ça dès le primaire! » Ça mettait comme des mots sur des choses que j'avais ressenties pendant longtemps. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous partager cette approche qui a été un point tournant dans ma vie. Ça a changé ma manière d'être en relation avec les autres, mais aussi avec moi-même. Ça m'a aidé à nourrir un espace en moi de bienveillance, d'accueil, d'amour. Il y a plein de chemins différents pour arriver à cet espace-là, la méditation, le mouvement, la thérapie, mais pour moi, la CNV, ben, ça a été une de mes portes d'entrée. Évidemment, mon côté scientifique aime ça quand mon intuition est appuyée par des études, et il y en a. Je ne vais pas vous donner tous les détails parce que ça serait trop lourd ici dans le balado et je veux vous parler de la matière de la CNV, mais les références seront inscrites dans la description du balado. Donc, scientifiquement, la CNV aide à augmenter l'empathie, à augmenter la collaboration dans les équipes de travail interprofessionnelles. Ça peut aussi aider les couples à mieux communiquer ensemble et à être plus satisfaits dans leur couple. Ça aide les travailleurs de la santé à mieux verbaliser leurs émotions, ce qui prévient, en fait, l'augmentation de leur stress par la suite. Ça aide aussi à prévenir la détresse de compassion. Et il y a une étude aussi qui montre que chez les détenus, ça les aide à mieux communiquer leur colère, à avoir plus d'autocompassion et ça les aide à améliorer leurs habiletés sociales. Les études sur la communication non violente, c'est récent, il n'y en a pas tant que ça, mais le domaine est en pleine expansion, donc c'est très prometteur. La communication non violente a deux racines, l'humanisme de Carl Rogers et la non-violence de Gandhi. La CNV a été fondée par Marshall Rosenberg, qui est un psychologue qui était l'élève de Carl Rogers. Et pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, Rogers est un des pères de la psychologie humaniste. Rogers avait vraiment cette confiance en la nature humaine, en notre organisme, notre corps, nos sensations, nos émotions, nos élans profonds. Et pour lui, le but de la thérapie était de trouver plus de congruence. Congruence, ça c'est un mot qu'il a inventé pour décrire la cohérence entre nos élans profonds, ce qu'on ressent, et notre image de nous-mêmes, ce qu'on projette en société, ce qu'on fait, ce qu'on dit. Et comment on contribue à la congruence en tant que, ben, pour nous-mêmes, ou en tant que parents, en tant que thérapeute, ou même en tant qu'ami? Eh bien, on écoute avec empathie. Avec la conviction qu'en dessous de tout ce que nous ou l'autre faisons ou disons, il y a un élan organismique qui, lui, est au service de la vie. Et c'est ça qu'il faut aller rejoindre. En résumé, on contribue à la congruence quand on aide soi-même ou l'autre à vraiment connecter avec ce qu'on vit profondément au niveau de notre organisme. On ne reste pas simplement à l'extérieur au niveau des mots et des actions. Marshall reprend cette idée d'élan profond et il va appeler ça les besoins. Au-delà des mots, des gestes, il y a toujours quelque chose qui est au service de la vie. En CNV, c'est toujours ça qu'on va essayer d'aller rejoindre chez soi et, lorsqu'on écoute, chez l'autre. J'aime bien penser à un enfant qui crie à sa mère « Je t'haïs! » Je suis pas mal certaine qu'il faut pas le prendre au mot. Il veut peut-être exprimer l'intensité de son besoin d'être entendu ou peut-être son besoin de liberté. Les parents, vous avez sûrement plein d'exemples de moments où vos enfants disent ou font des choses qui sont pas cohérentes avec vraiment comment ils se sentent à l'intérieur. Le travail du parent, c'est d'aller chercher le besoin puis d'aider l'enfant à graduellement être capable de le trouver lui-même. Bon, ça, c'est le travail du parent, mais c'est un travail qu'on peut tous faire envers nous-mêmes, en tant que thérapeute, envers nos clients et même en tant qu'amis, que conjoints, conjointes. La deuxième branche de la CNV, sa deuxième racine, c'est la philosophie de la non-violence de Gandhi. Donc, le terme, l'expression non-violence, ne réfère pas, comme plusieurs peuvent le penser, à parler au jeu ou à être gentil. Elle réfère au terme sanskrit ahimsa, qui signifie de reconnaître notre violence et connaître ses fonctionnements pour mieux les transformer et développer notre capacité de choisir nos actions au lieu de réagir. Dans le fond, la non-violence est un processus où on essaie de se comprendre pour se libérer de nos automatismes puis de nos mécanismes de défense comme se défendre, attaquer, se fermer, être passif-agressif, etc., afin d'être capable de choisir dans quel état on a envie d'interagir avec soi-même et avec l'autre. Un état de compassion, d'amour, de respect. Toutes ces qualités qu'on a en nous de toute façon, de manière naturelle. La communication non-violente porte un rêve. C'est celui d'un monde où il y aurait plus d'harmonie entre les humains, où les besoins des uns, des autres seraient exprimés, entendus et tenus en compte. Et ça serait possible parce que les gens seraient davantage dans cet espace bienveillant, d'ouverture, où on a vraiment envie, sincèrement, de comprendre nos besoins à nous et ceux des autres. Je pense que ça pourrait être très pertinent en ce moment dans notre société. Dans la théorie du système familial intérieur dont j'ai parlé dans un précédent épisode, on parlait du soi pour décrire cet espace ouvert, curieux, compatissant. Dans la théorie polyvagale, dont aussi j'ai déjà parlé dans un précédent épisode, on parle du ventral, un état du système nerveux autonome qui nous pousse justement vers la connexion humaine. La CNV, c'est pas la seule approche à parler de cet espace intérieur-là, mais c'est une approche qui propose des moyens concrets pour nous guider vers cet endroit-là. Marshall Rosenberg a développé une technique de communication pour nous aider à trouver et à rester dans cet espace intérieur. Et ça, c'est un point important. La méthode en quatre étapes que je vais vous présenter, OSBD, n'est pas une fin en soi. Elle sert de guide pour qu'on reste dans l'espace de la non-violence. Mais si on emploie la méthode dans une posture violente, par exemple une posture où on essaie de changer l'autre, de le faire sentir coupable, bien là, c'est pas de la CNV. Par contre, si on se trompe sur les étapes, qu'on ne fait pas parfaitement la méthode OSBD, mais qu'on reste dans notre espace de non-violence, ben là, c'est encore de la CNV. Il y a trois mouvements dans la communication. Lorsque je m'écoute moi-même, ça c'est l'auto-empathie. Lorsque j'écoute l'autre, l'empathie. Et lorsque je m'exprime à l'autre. Dans cet épisode-ci, je vais vous parler seulement de lorsque je m'exprime à l'autre. C'est vraiment pour des raisons pédagogiques parce que ça me permettait de vous nommer plus de choses que je trouvais importantes à vous partager. Lorsque je m'exprime à l'autre en communication non-violente, j'essaie de maximiser mes chances que l'autre soit capable de m'entendre. Et pour ça, je vais éviter les accusations ou les jugements. Parce que lorsque l'autre a l'impression que je l'accuse ou que je le juge, il va sûrement devenir déclenché dans ses mécanismes de défense et là, il ne sera plus capable de m'écouter. On va aussi s'exprimer entièrement. On ne va pas minimiser ou cacher ce qu'on veut dire pour ne pas vexer l'autre. Par exemple, je ne vais pas dire « Ouais, je suis un petit peu irritée si ça ne reflète pas mon ressenti. » Je vais plutôt dire « Je suis vraiment à bout, là. » Je vais pas dire « Ah, j'aimerais ça qu'on soit un peu mieux ajusté dans notre quotidien. » Ça, c'est vraiment pas clair. Je sais pas pour vous, mais pour moi, je sais pas ce que la personne souhaite si elle me dit ça. Je vais demander vraiment ce que je veux. Par exemple, la personne pourrait dire J'aimerais qu'on s'assoie ensemble puis qu'on détermine comment diviser les tâches quotidiennes. Ça, c'est clair. Et maintenant, je peux répondre oui ou non ou faire une contre-proposition. Dans le fond, gardons en tête que les quatre étapes que je vais vous présenter dans un instant visent à augmenter nos chances d'être entendus en, tout d'abord, en évitant les jugements et les accusations et en amenant de la clarté sur ce que je vis et ce que j'aimerais. La première étape en CNV, c'est l'observation. À quoi spécifiquement je réfère? Qu'est-ce qui a déclenché une réaction émotionnelle chez moi? Qu'est-ce qui m'a dérangé, m'a fait plaisir ou m'a fait peur? Et ici, on tente de ne pas raconter l'histoire. Pourquoi? Bien parce que ça dilue le message, puis ça augmente les chances pour que la personne à qui on s'exprime morde sur des choses qu'on a dit qui ne sont pas vraiment le message central qu'on essaie de passer. Donc, concision. Et on cherche les faits, quelque chose qui aurait pu être filmé par une caméra. Par exemple, je pourrais dire « Hier, tu m'as dit, ouvre les guillemets, arrête donc de chialer, ferme les guillemets, quand je te parlais du partage des tâches ménagères. » Vous voyez ça, une caméra aurait pu filmer cette scène-là et c'est assez concis. Je ne raconte pas toute l'histoire de notre relation conjugale et etc. et etc. Je pourrais encore dire, pendant qu'on dînait ce midi, ben, tu as regardé, je ne sais pas, environ 6-7 fois ton cellulaire. Autre exemple, quand je suis arrivée dans le parc, tu as ouvert les bras, tu m'as souri et tu m'as fait un câlin. Pourquoi on fait ça? Tout d'abord, ben, parce que ça nous aide à éviter les jugements qui pourraient fort probablement déclencher la personne. Déclencher, ça veut dire que la personne quitte cet espace de bienveillance dont on parlait tantôt pour aller dans une partie blessée ou dans un mécanisme de protection. Et dans les deux cas, ben, elle ne peut plus nous entendre. Donc, on ne va pas dire à la personne « tu ne m'écoutes pas » parce qu'elle pourrait avoir envie de se défendre, de dire « ben non, je t'écoute ». On va lui dire plutôt « quand je t'ai parlé hier soir de ce que je vivais dans ma relation avec Jasmine, ben, tu m'as répondu de ne pas m'en faire que ça allait aller ». Vous voyez, c'est moins attaquant et en même temps, c'est très clair. Ça permet à la personne d'avoir de la clarté sur ce qu'elle a dit ou fait, qui a nourri ou non nos besoins. Imaginez avoir un feedback, mais sans savoir à quoi on réfère exactement. Par exemple, quelqu'un pourrait me dire « Hey, wow, super balado, Maryse! » Eh bien, merci, mais qu'est-ce qui était bien ou juste? Est-ce que c'était le sujet que j'ai choisi, le fait que je donnais beaucoup d'exemples, la pièce musicale? Ou encore si quelqu'un me dit « Ouais, ton dernier épisode est un petit peu moins réussi, hein? OK, mais pourquoi? » Les gens aiment ça savoir ce qu'ils ont fait ou pas, qui a contribué ou pas. Ça leur donne du pouvoir. Ça permet de s'ajuster aux autres. C'est moins étourdissant. On sait de quoi on parle. De nommer les faits sans jugement, dans le fond, ça met la table. La deuxième étape, c'est d'identifier le sentiment. Personnellement, j'inclus dans cette étape-là les sensations physiques. Dans ma conception des choses, les émotions, les sentiments ont tellement une composante physiologique que pour moi, ça va de soi. Donc, à l'étape du sentiment, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller voir dans notre cœur, dans notre corps, qu'est-ce que ça nous fait. Quand je pense à hier que tu m'as dit d'arrêter de chialer, comment je me sens? Et le corps et les émotions sont toujours dans l'instant présent. Je peux me souvenir que hier, quand tu m'as dit d'arrêter de chialer, j'étais en colère, mais là, en y repensant, ben, c'est peut-être plus de la déception, même du désespoir qui est présent. L'autre chose qui est importante à dire, c'est qu'en CNV, on essaie de ne pas mélanger les sentiments avec les évaluations. Pour enseigner la CNV fréquemment, cette étape est souvent difficile pour plusieurs personnes parce que c'est inhabituel de connecter vraiment avec notre ressenti. On est parfois plus confortable d'aller dans les pensées puis les évaluations. Par exemple, je pourrais dire « Quand tu me dis d'arrêter de chialer, ben je sens que tu ne m'écoutes pas. » Ici, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on ne sait pas grand-chose de l'émotion qui est vécue. On entend une évaluation, le fait que je pense que l'autre ne m'écoute pas. Autre exemple, je sens qu'il se fout de moi. Ça, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, c'est une évaluation. L'émotion vécue, c'est peut-être de la tristesse, de la colère, même de la rage. Chaque fois que vous utilisez la formule « je sens que tu », c'est fort probablement une évaluation et non un ressenti. Il y a d'autres sentiments qui sont mélangés avec des évaluations, comme par exemple quand on dit « je me sens abandonné », « je me sens jugé », »,« je ne me sens pas aimé ». Ces formulations sont vraiment une pente glissante vers l'évaluation parce que ça implique que l'autre m'abandonne, me juge ou ne m'aime pas. Est-ce que vous voyez la nuance? Donc, c'est normal que les pensées et les évaluations sortent à cette étape-là. On est dans une société, une culture où souvent on dit ce qu'on pense au lieu de dire ce qu'on ressent. L'important, c'est de s'en rendre compte. Donc, si vous réalisez que vous êtes en train de dire une évaluation, pour retourner dans l'émotion, j'aime bien utiliser cette petite phrase magique. Par exemple, si vous avez la pensée « je sens que tu ne m'aimes pas », vous pouvez vous dire « qu'est-ce que ça me fait quand je me dis que l'autre ne m'aime pas? » Ben, je me sens triste. Et pourquoi on distingue les sentiments des évaluations? Premièrement, parce que les évaluations risquent de déclencher l'autre qui va se sentir attaqué si on lui attribue des intentions qu'il ne m'écoute pas, qu'il ne m'aime pas, qu'il m'abandonne. Ensuite, ça aide l'autre à connecter avec nous, avec ce qu'on vit vraiment. Il y a tellement un impact différent entre de dire « tu m'écoutes pas » ou de dire « quand tu me dis que ça va bien aller, hey, je me sens tellement seule dans ce que je vis. » Dans le deuxième exemple, c'est comme si je m'ouvrais à l'autre et je lui permettais de mesurer l'impact que sa phrase a eu sur moi. Et là, on peut entrer en connexion. Il y a plus de chances qu'on rentre en connexion. Puis troisièmement, en touchant les sentiments, les émotions, les sensations dans le corps, on commence à connecter avec notre propre expérience, à descendre en nous vers le message que portent nos émotions. Dans plusieurs approches en psychologie, on reconnaît ça que les émotions sont des messagères. En CNV, il y a aussi cette idée-là et on pense que les messages, eh bien, c'est les besoins, ce que j'ai envie de vivre, cet élan organismique, comme dirait Rogers. Dans le fond, nos émotions sont une sorte de boussole de vie. Et pour connecter avec la boussole intérieure, bien, ça passe par ressentir. Ressentir le corps, les émotions, les sentiments. Les besoins en CNV sont pensés comme étant universels, c'est-à-dire que tous les humains ont les mêmes besoins. À ce niveau-là, il n'y a pas de conflit. Tout le monde a besoin de sécurité, d'amour, d'autonomie, d'espace. Cependant, il existe beaucoup de diversité au niveau de la manière dont on tente de répondre à nos besoins. En CNV, on appelle ça des stratégies, les manières dont on répond à nos besoins. Pour nourrir le même besoin, disons, d'amour, trois personnes vont employer une stratégie différente. La première va vouloir passer une soirée en famille, l'autre va préférer un moment avec son conjoint ou sa conjointe, puis la troisième va peut-être aller dans un cercle d'empathie. Il y a vraiment une infinité de stratégies qui peuvent répondre aux mêmes besoins. Dans le troisième mouvement de la CNV, on essaie de découvrir c'est quoi ce besoin-là, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, c'est quoi le message que mon sentiment essaie de m'exprimer. Une personne m'insulte, par exemple. Je me sens en colère, outrée, parce que j'ai besoin de respect. Ici, attention, mon besoin n'est pas que l'autre me respecte. Ça, le fait que l'autre me respecte, c'est une stratégie pour que moi, je vive le respect. Est-ce que vous voyez la différence? Quand je veux que l'autre me respecte, que l'autre m'aime, que l'autre m'écoute, pour nourrir mes besoins de respect, d'amour et d'écoute, c'est comme si je lui donnais le pouvoir de choisir si je vais vivre le respect, l'amour et l'écoute. Je lui remets le pouvoir de mon bien-être. S'il me respecte en disant « s'il vous plaît, merci », ben je me sens bien. S'il ne se sent pas disponible pour faire ça puis me parle un peu brusquement, ben là, je suis malheureuse. Ici, je ne suis vraiment pas en train de dire que les autres ne sont pas responsables de l'impact qu'ils ont sur nous et vice-versa, mais plutôt qu'en tant qu'adulte, on est responsable de nos besoins. Et si l'autre me lance des cailloux, des insultes, ben je ne vais pas rester là à attendre qu'il ou elle change son comportement. Je vais changer de stratégie. Je vais peut-être m'affirmer, demander à l'autre de modifier son comportement. Je vais peut-être même choisir de moins voir la personne ou peut-être carrément de couper la relation. Parce qu'avec les ressources que cette personne-là a en ce moment, elle n'est pas capable de m'aimer, de me respecter, de m'écouter. Je reprends la responsabilité de mes besoins. Cette nuance-là est super importante. Puis si vous me permettez, ben vous n'avez pas vraiment le choix. Je vais insister encore un peu avec un exemple. Imaginez que vous êtes en amour avec une personne qui, en retour, ne ressent pas le même élan pour vous ou qui n'est pas capable de vous aimer. Si vous attendez que cette personne-là vous aime pour vivre votre besoin d'amour réciproque, premièrement, vous risquez d'attendre longtemps, mais surtout, vous devenez dépendant de l'autre. C'est lui ou elle qui a le pouvoir de vous faire vivre ou non l'amour. La CNV invite à faire un changement, un switch. J'ai envie de vivre l'amour dans la réciprocité, ça c'est votre besoin. Je constate qu'avec cette personne, je ne vis pas, malgré mes efforts, cet amour-là réciproque. Je prends responsabilité de mon besoin et je vais chercher une nouvelle manière de le vivre. Je vais peut-être chercher un ou une nouvelle compagne. Quand on discute en CNV, on est toujours flexible au niveau des stratégies. Les stratégies, c'est les actions, les contextes, les activités, les personnes avec qui on est en relation, mais on est inflexible au niveau des besoins. Ça signifie que j'accepte pas une situation dans laquelle un de mes besoins n'est pas tenu en compte. De l'autre côté, j'essaie de pas m'accrocher à des stratégies précises. Par exemple, dans ma vie, je veux vivre de la connexion. Et ma stratégie préférée, c'est par exemple d'aller prendre une marche avec Amy. Mais un jour, Amy est moins disponible, elle part en vacances. Je peux choisir de souffrir, de manquer de connexion jusqu'à son retour ou de simplement contacter mon ami Simon. Le besoin de connexion, je ne le lâche pas, juste de créativité pour trouver comment y répondre. Et pourquoi c'est important d'être capable de lâcher et de changer de stratégie? Premièrement, c'est parce que ça augmente mes chances d'arriver à combler mon besoin. Deuxièmement, c'est parce qu'il y a aussi des stratégies moins efficaces, voire nuisibles. Par exemple, pour tenter de répondre encore à ce fameux besoin d'amour, une personne pourrait toujours dire oui aux autres. Et ça, c'est assez répandu. Toujours pour répondre à ce besoin d'amour-là, une autre personne pourrait insulter son ou sa conjointe dans l'espoir désespéré qu'il ou elle entende au fond son besoin d'être aimé. Et encore une fois, si vous ne trouvez pas le besoin, mais seulement des stratégies, ce n'est pas grave. Par exemple, vous savez que vous voulez que votre conjoint range la vaisselle aussi souvent que vous, mais vous ne voyez pas à quel besoin ça répond. Vous vous en rendez compte, et puis vous pouvez vous poser cette petite question magique. Qu'est-ce que ça me permettrait de vivre si mon conjoint rangeait le lave-vaisselle aussi souvent que moi? Ah, OK, s'il faisait ça, je me sentirais comme détendue, légère. Là, je suis dans les sentiments, les ressentis, parce que mon besoin de soutien, de confiance serait nourri. Autre exemple, si vous aimeriez que l'autre comprenne le mal qu'il vous a fait, ça, c'est une stratégie. Qu'est-ce que ça me permettrait de vivre s'il comprenait le mal qu'il m'a fait? Ouf, on dirait que je me sens soulagée comme une détente. Les larmes me montent aux yeux. Peut-être que ça me permet en fait de moi-même connecter pleinement à ce que je vis, besoin de connexion. Puis aussi, on dirait que ça m'aide à cheminer dans mon deuil, besoin de deuil. Et à partir du besoin, on peut ensuite trouver d'autres stratégies pour nourrir le besoin. Mais ça, c'est la quatrième étape. Thank you. Le quatrième mouvement de la communication non violente est vraiment important. C'est là où on passe à l'action. On a ciblé l'observation, ce qu'on ressent en lien avec ça dans l'instant présent, ce qu'on a envie de vivre, notre besoin. Maintenant, on agit en cohérence avec le ou les besoins ciblés. On passe à l'action en demandant à l'autre ou à soi-même de faire quelque chose qui pourrait contribuer à nourrir notre besoin. Moi, j'aime vraiment cette étape-là. C'est souvent là qu'on doit être courageux, courageuse et s'assumer en demandant vraiment c'est quoi notre préférence. C'est trilant en quelque sorte. Par exemple, je pourrais demander « J'ai envie de vivre de la connexion puis de l'intimité. J'aimerais ça passer une fin de semaine complète avec toi. » Je pourrais demander aussi « J'ai besoin de reconnaissance puis de clarté. Comment ça serait pour toi de me dire ce que tu apprécies de moi juste là? » Ou encore « Hey, j'ai besoin de vivre un deuil, je pense. J'aimerais mieux qu'on ne se voit pas pendant 2-3 mois. » On demande ce qu'on aimerait en le reliant aux besoins. En CNV, on tente de faire des demandes le plus précises et réalistes possibles. On ne va pas demander « Peux-tu essayer de mieux m'écouter? » Mais on va plutôt demander « Comment ça serait pour toi de mettre ton cellulaire sur silencieux pendant qu'on discute de ce sujet-là? » Et ici, une nuance très importante s'impose. Lorsqu'on fait une demande, l'autre est libre de ne pas y adhérer. Sinon, c'est une exigence, c'est plus une demande. Intérieurement, on essaie de rester ouvert et ouverte à cette possibilité que l'autre va peut-être dire non. C'est pas facile. En plus, on essaie de rendre l'autre assez à l'aise pour qu'il se sente libre de dire oui, non ou même de faire une contre-proposition. Par exemple, à ma demande de mettre le cellulaire sur silencieux, l'autre pourrait me répondre « Ben en fait, j'attends un appel important. » J'aimerais mieux laisser la sonnerie ouverte pour ne pas le manquer, mais après mon appel, là, d'ici maximum 30 minutes, oui, je pourrais fermer mon cellulaire. Un truc personnel, c'est que je me dis, la négociation est ouverte. Ce que je demande, c'est juste la première proposition sur la table, il va probablement y en avoir d'autres. Déjà en me disant ça, mon attitude intérieure est plus dans une logique de « on va trouver ensemble une stratégie qui convient aux deux ». Tout de suite, j'ai déjà à cœur de répondre aussi aux besoins de l'autre. Une formulation que j'aime bien, c'est d'inclure « comment ça serait pour toi dans ma demande ». Je trouve que ça aide à ouvrir la porte à ce que l'autre s'exprime sur comment il voit ça en toute sincérité. Par exemple, « j'ai vraiment besoin de repos. Comment ça serait pour toi de t'occuper du bébé de 6 à 10 heures le matin pendant que moi je dors? » Puis je suis vraiment ouverte aux propositions. Parfois, même si je sens que l'autre pourrait dire oui juste pour me faire plaisir ou pour ne pas me fâcher, j'ajoute « et je veux que tu dises oui juste si ça te tente vraiment ». Marshall disait qu'il y a deux choses à considérer dans la demande à l'autre. Ce qu'on veut, notre demande, notre proposition, mais aussi à partir de quel espace j'ai envie que l'autre fasse ou dise ceci ou cela. Un espace de culpabilité, de honte, d'amertume? Ben, je ne sais pas pour vous, mais moi, non. Et je ne me gêne pas pour le dire à la personne. On peut évidemment se faire une demande à soi-même. Par exemple, vous vivez une rupture amoureuse, vous avez besoin de vous connecter avec ce que vous vivez et de faire le deuil. Mais l'autre n'est peut-être pas ouvert à aller prendre un café pour parler. Ça, ce serait votre stratégie préférée, mais l'autre n'est pas disponible à ça. Bien, vous pouvez peut-être vous proposer d'aller prendre une marche dans la montagne pour faire le vide, ou encore d'organiser une petite cérémonie pour dire au revoir à cette relation-là que vous faites seule à la maison. Les options sont vraiment infinies. Puis c'est ça que j'aime dans la demande, c'est qu'on reste ancré dans le ou les besoins à nourrir, puis ensuite on se met en mode créatif, en mode brainstorm, pour trouver comment je vais répondre à ce ou ces besoins-là. Pour finir, on va mettre les quatre étapes ensemble. Quand je m'exprime à l'autre, Je vais d'abord nommer les observations brièvement. C'est quoi les faits qui auraient pu être filmés par une caméra? Ensuite, mon ressenti, mon sentiment. Qu'est-ce que ça me fait vivre au niveau du corps et du cœur dans l'instant présent? Le ou les besoins. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est quoi mon élan vital? Puis finalement, la demande, une proposition qui est vraiment là pour amorcer un dialogue. Je vais vous donner quelques exemples. Tu sais, hier, quand tu m'as écrit que tu ne sais pas si tu serais disponible pour venir me voir, ça, c'est l'observation. En lien avec ça, ben, je me sens mal à l'aise puis déçue, le ressenti. Parce qu'au fond, j'ai besoin du sens de ma place, d'avoir ma place. Ça, c'est le besoin. Est-ce que ça serait possible pour toi qu'on planifie tout de suite là, une rencontre, puis après ça, que tu organises le reste de tes engagements autour de ça? Autre exemple. Dans les dernières nuits, j'ai dormi seulement 4-5 heures. Observation. Je me sens fatiguée, fragile même, puis inquiète pour ma santé, mon sentiment. J'ai vraiment besoin de sommeil, mon besoin. Comment ça serait pour toi de t'occuper du bébé de 6h à 10h tous les matins cette semaine, puis que moi j'essaie de dormir pendant ce temps-là? Là, j'ai donné quelques exemples où les besoins n'étaient pas répondus, mais on peut aussi utiliser l'expression en CNV pour témoigner notre gratitude à l'autre, lui dire « merci, ce que tu as fait a contribué pour moi ». Dans ce cas-là, souvent, on va utiliser les trois premières étapes. Il n'y a pas vraiment une demande, si ce n'est de « continue comme ça, ça répond à mes besoins ». Donc, un exemple, je pourrais dire « Ève, il y a quelques jours, tu m'as envoyé des suggestions de films pour ma fille. » L'observation, c'est précis. Ça me fait vraiment beaucoup de joie, comme une genre de tendresse dans le cœur. Mon sentiment, ça nourrit quelque chose comme la bienveillance puis l'attention. Merci. J'adore vraiment faire des gratitudes en CNV parce que ça me permet d'encore plus goûter au bien-être pour lequel j'ai de la gratitude. Et en plus, je goûte au plaisir de l'autre qui reçoit ça parce que les gens aiment ça, savoir à quoi ils ont contribué et comment. Et ces quatre étapes que je vous ai présentées peuvent être utilisées aussi pour écouter l'autre et pour se faire de l'auto-empathie. Quand vous écoutez l'autre, à la place de porter votre attention sur l'histoire, tentez d'écouter au-delà des mots. Quand la personne raconte tout ça, comment est-ce qu'elle se sent? Regardez son corps. Connectez-vous à son ressenti. Et quel besoin essaie de s'exprimer en ce moment? Mais ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Je pourrais encore vous parler longtemps de communication non-violente. Il reste les types de demandes, l'auto-empathie, l'écoute empathique, l'intention. Mais je pense que là, avec les quatre étapes, je sens que mon besoin de transmission est rempli. Et j'ai aussi un besoin de légèreté qui ne serait pas répondu si je mettais toute la matière CNV en un seul épisode. Je vous remercie vraiment pour votre écoute. J'espère que cet épisode sur la communication non-violente vous a inspiré.